bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Capien titulaire Égard sur la côte de la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la côte de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue la côte de la semaine, nous recevons Madame Élisée Odia, elle est journaliste indépendante. Bonjour Madame Élisée Odia.
Bonjour Guy Maté et bonjour aux téléspectateurs, téléspectateurs, je ne sais même pas, aux auditeurs de la radio onusienne.
Merci, bienvenue.
Très heureux de vous retrouver.
Merci. Bienvenue au Ketch, vous êtes secrétaire exécutif de l'ONG Justice Plus, membre de la thématique droits humains au sein de la coordination provinciale de la société civile de l'Ituri. Bonjour, bienvenue au Ketch.
Bonjour Guy Maté, bonjour à tous les co-débatteurs et bonjour à tous les fidèles auditeurs de la radio Capi. Merci.
Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, c'est Ezi Kaba, il est journaliste et universitaire, il est président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel, Think Tank basé à Paris. Il a publié récemment l'ouvrage intitulé « Le Sahel, notre Afghanistan ». Bonjour Ezi Kaba.
Bonjour à vous, bonjour à vos auditeurs et bonjour à mes co-débatteurs.
Merci et à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Capi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Capi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur la côte de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Madame Élisée Odia, elle est journaliste indépendante. Bienvenue au Ketch, il est secrétaire exécutif de l'ONG Justice Plus, membre de la thématique droits humains au sein de la coordination provinciale de la société civile de l'Ituri. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, c'est Ezi Kaba, il est journaliste et universitaire. Il est président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel, Think Tank, basé à Paris. Il a publié récemment l'ouvrage intitulé Le Sahel, notre Afghanistan. Trois sujets au menu de cette émission, à savoir l'absence du président Félix Tshisekedi au 38e sommet de l'Union africaine, la MONUSCO devrait-elle poursuivre et parachever son retrait de la RDC, et enfin l'entrée des troupes ougandaises dans la ville de Bunia, situation qui a créé la psychose au sein de la population de l'Ituri en général et de Bunia en particulier. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet des sanctions individuelles que les États-Unis viennent de prendre contre un ex-officier rwandais et un cadre de la rébellion du M23. En effet, les États-Unis ont annoncé ce jeudi 20 février des sanctions contre le général rwandais à la retraite James Kabarebe et Lawrence Kanyuki, porte-parole de la rébellion du M23. Ils sont ajoutés sur la liste noire du Bureau des contrôles des avoirs étrangers, OFAC en sigle, pour leurs activités liées à la rébellion dans l'est du pays. L'action d'aujourd'hui souligne notre intention de demander des comptes aux responsables et dirigeants clés comme Kabarebe Kanyuka qui permettent les activités déstabilisatrices des RDF et du M23 dans l'est de la RDC, a déclaré le sous-secrétaire par intérim du Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier Bradley Smith. Les États-Unis restent déterminés à garantir une résolution pacifique de ces conflits. Alors que le Conseil de sécurité statuait mercredi sur la crise dans l'est de la RDC, la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Wagner-Kaikwamba, a une fois de plus haussé les tons et exigé des sanctions contre le régime de Kigali et ses officiers impliqués dans l'instabilité de l'est de la RDC. Madame Élisée Odia, comment vous réagissez à cette annonce des États-Unis faisant état des sanctions prises contre ces deux personnalités?
Pour moi, je me dis vaut mieux tard que jamais, parce qu'il y a eu plusieurs rapports prouvant à suffisance que le Rwanda avait franchi les frontières de la République démocratique du Congo. Il a été prouvé à maintes reprises que les troupes de Paul Kagame viennent en soutien à une rébellion qui, si on entend ce qu'ils disent, c'est une rébellion interne à la RDC. Donc elle ne devait en principe pas et elle ne doit pas bénéficier d'un soutien d'un pays voisin, peu importe les raisons. Donc je crois aussi que c'est un signal fort des États-Unis qui prouve à suffisance que quand même qu'ils portent un intérêt accru à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et c'est encore une preuve que on le dit pas assez, mais aujourd'hui, le Rwanda se trouve au bord de la communauté internationale. Le bourreau aujourd'hui, c'est le Rwanda. Celui qui tue, c'est le Rwanda. Et il n'y a pas très longtemps, je passais sur Radio Okapi, je disais, au regard de l'expérience du Rwanda, au regard du passé du Rwanda, au regard de ce qui s'est passé au Rwanda, le Rwanda ne devait pas être le pays qui devait venir commettre des massacres en République démocratique du Congo. Parce qu'il sait ce qu'il en coûte, il sait ce qu'il en est, il a vécu cela dans sa chair. Donc aujourd'hui, le Rwanda doit prendre acte de ça. Pour moi, je vois c'est le Rwanda qui cause beaucoup de mal dans la partie est du pays. Je ne suis pas en train de nier, je ne remets pas en question la problématique interne, mais c'est des problèmes des Congolais et qui doit être résolu par des Congolais et avec des Congolais. Le Rwanda a ses problèmes, qui cherche à résoudre cela avec le Rwandais et à laisser les Congolais résoudre leurs problèmes entre eux. Je crois qu'on est assez mature. On s'aime beaucoup trop, on veut l'unité, on veut vivre ensemble. On n'a pas besoin qu'un pays tiers nous vienne nous dicter comment est-ce qu'on doit se réconcilier, comment est-ce qu'on doit parler de nos problèmes. Donc, c'est un bon début. J'entends ça et là, les gens dire oui, ça ne va rien changer. Non, mais la symbolique, elle est là. Et nous espérons d'ailleurs que cette nuit ou d'ici demain, il y aura également une autre résolution, cette fois-ci du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui va officiellement condamner l'agression rwandaise. Et je crois que maintenant, le président rwandais n'aura pas à venir dire que non, je ne sais pas s'il y a mes troupes, parce que ça saute aux yeux de tout le monde que le Rwanda a des troupes ici, et ces troupes n'ont rien à voir ou n'ont rien à faire ici en République démocratique du Congo.
Merci, bienvenue au Quête. De telles sanctions qui ne touchent que des individus peuvent avoir quel impact sur leurs organisations respectives, à savoir l'armée rwandaise et la rébellion du M23?
Merci Guy Maté. Bon, vous avez déjà touché un point essentiel. Nous aurions aimé que les sanctions là, déjà les avoir, touchent même les Rwandais, qu'on puisse même suspendre les aides, suspendre les appuis qu'on donne au Rwanda. Comme ça, ça pouvait encore se couper davantage. Toucher les individus, c'est bon, mais le Rwanda, c'est un monstre à plusieurs têtes. On peut couper certaines têtes, mais d'autres vont encore naître. Mais mine de rien, ça, c'est une très bonne sanction. Et moi, je pense que, bon, on peut se dire, comme Mme Odia vient de le dire, il y a des gens qui peuvent minimiser. Mais quelque part, c'est déjà un pas vers des actions contre ces rebelles. Et aussi, nous ne devons pas oublier que depuis que cette crise a pris une ampleur inquiétante, il y a un nom qui était encore dans les oubliettes. On n'a pas fait mention de ce nom depuis un bon moment, c'est le nom de James Kabarebe. Vous allez voir, chaque fois on parlait de président Kagame, on parlait de Corneille Nanga, mais les stratèges là, on l'avait oublié. On l'avait oublié, et ces sanctions ont pour mérite de mettre à jour l'implication de ces planificateurs, de ces stratèges-là, James Kabarebe, on les connaît, et moi je me dis, c'est déjà un grand pas. Pourquoi? Parce que si vous voyez bien, vous allez suivre chaque fois Corneille Nanga dans des positions très rassurantes, dans des positions très sûres de lui, et dire non, voilà, je veux marcher sur Kinshasa. Pourquoi il le dit? Parce qu'il sait qu'il est béquillé par James Kabarebe. James Kabarebe, on le connaît. C'est lui le planificateur de l'entrée des troupes AFDEL à Kinshasa. C'est James Kabarebe qui a planifié toute cette rébellion des AFDEL. Et comme il est encore là, je sais qu'il est en train de travailler avec Corneille Nanga, et c'est pourquoi Corneille Nanga est sûr de lui, voilà, je vais marcher sur Kinshasa. Tout ça, c'est faux. Mais ils doivent savoir une chose. Les contextes ont changé et les mêmes formules ne produisent pas toujours les mêmes résultats. Le peuple congolais n'est plus dupe pour accepter n'importe quoi dans son pays. Donc moi je pense que ces sanctions des États-Unis viennent mettre vraiment à jour certaines vérités cachées de cette guerre, certains acteurs qui travaillent dans l'ombre pour alimenter cette guerre. Et si on casse ces béquilles-là, je ne vois pas comment ces canards boités vont avancer dans leur salle de zone. Donc, je pense que les États-Unis ont donné un message très fort, mais cela doit s'étendre jusqu'au niveau du gouvernement rwandais. On doit les sanctionner, on doit étendre jusqu'à tous les seigneurs de guerre là qui sont en train d'endeuiller la partie est de la République. Et aussi un dernier élément, M. Guy Maté, je pense que les États-Unis ont montré une volonté. L'Union européenne doit aussi suivre les pas et les autres puissances mondiales qui sont dans la communauté internationale doivent emboîter ces pas. Et je pense que ça va nous permettre d'aller lentement, progressivement, sûrement, vers la solution durable dans la crise qui sévit à l'est de la RDC. Merci.
Merci, Saïdi Kaba. Quelles valent des sanctions prises contre des personnes qui peuvent s'être déjà préparées à cette éventualité et qui pourraient avoir déjà mis, n'est-ce pas, à l'abri leurs avoirs afin qu'on ne soit pas en mesure de les geler?
Non, il y a d'abord une dimension symbolique aux sanctions, parce que pendant longtemps, on a fait le constat de l'implication de certaines personnes dans la crise en est du Congo. Mais on n'avait pas jusqu'ici franchi le pas du constat. On constate et on s'arrête là. Le fait qu'on prenne des sanctions, même si elles ont dans un premier temps une dimension symbolique, est absolument important. Et il faut même espérer que d'autres institutions que les États-Unis, que ce soit le Conseil de sécurité européen, prennent eux aussi le pas du constat pour arriver aux sanctions. Maintenant, les sanctions sont graduelles. Dans un premier temps, on prend des sanctions pour les gels de vapeur. Ensuite, on peut franchir un autre gap. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger, il ne faut pas sous-estimer la portée et même l'efficacité de ces différentes sanctions-là. Moi, je pense que il y a quelque chose que les États-Unis viennent de faire. Et de ce point de vue, les États-Unis ont été cohérents. Parce que vous savez, l'ancien secrétaire d'État est venu jusqu'à Kigali pour dire devant les Rwandais qu'ils ont une responsabilité dans ce qui se passe dans l'est de la République du Congo. Et ça, ça me semble être important. Et avec l'administration américaine, moi je crois que si on peut espérer que le Rwanda entende raison, ça ne viendra que l'administration américaine qui pourra avoir un effet d'influence sur les Nations Unies, sur l'Union Européenne et le reste du monde.
Merci, on prend une petite pause en écoutant, cher ami, cette chanson de Billy Abel, on se retrouve juste après.
Ni cambona
chanté Cher ami avec la reine Cléopâtre et Billy Abel, chanson contenue dans l'album Phénomène sorti en 1988 sous la direction artistique du célèbre guitariste Eric Gostard. On revient à l'actualité cette semaine. Félix Tshisekedi ne s'est pas rendu au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Il était initialement annoncé présent au sommet des chefs d'État du week-end dernier, mais il a finalement renoncé. Il s'est fait représenter par la première ministre Judith Suminwa. Profitant de la présence des chefs d'État africains venus participer à ce sommet, la chef du gouvernement de la RDC a appelé à plus d'unité et au respect de la souveraineté des États du continent noir, a rapporté la primature de la RDC sur son compte X. Sédi Kaba, vous êtes journaliste et universitaire. Vous êtes président, n'est-ce pas, du Centre international des réflexions et d'études sur le Sahel Think Tank basé à Paris. Vous avez publié récemment l'ouvrage intitulé « Le Sahel, notre Afghanistan ». Vous avez souhaité nous parler de l'absence du président Félix Tshisekedi au 38e sommet de l'Union africaine. On vous écoute.
Non, je pense que d'abord le sommet de l'Union africaine, le sommet ordinaire surtout, est le plus grand rendez-vous où on parle des enjeux et des questions urgentes du continent africain. Donc, en vérité, même s'il n'y avait pas la crise, on attendait que le président de la République démocratique du Congo, un grand pays africain, un pays stratégique, participe à cette réunion si il n'y avait pas de contrainte d'agenda. Et dans le contexte d'aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose de totalement significatif dans le contexte de la crise que connaît l'Est de la RDC et dans le contexte aussi de l'échec de la médiation portée par la communauté des États d'Afrique centrale et la communauté de développement d'Afrique australe malgré le sommet conjoint maintenu. Le fait que le président Tshisekedi ne vienne pas me semble être quelque chose d'important, en tout cas du point de vue de l'analyste que je suis et même du point de vue de l'implication. Ça aurait été peut-être l'occasion de créer enfin la rencontre entre le président congolais et le président rwandais pour faire avancer l'agenda de la sortie de crise. Mais cette présence n'était pas faite et le président, après avoir un peu indiqué qu'il viendrait, a finalement décidé, après sa participation à la conférence internationale sur la sécurité de l'ONU, de finalement ne pas venir à Addis Abeba. Et pour l'ensemble de ces éléments, pour moi, ça a été un élément important qui doit être débattu à l'occasion de notre retrouvaille sur les antennes de radio.
Et sa présence aurait changé quoi, Sédi Kaba? Il aurait été possible que sa présence puisse avoir la capacité d'influencer la position de certains dirigeants africains en faveur de la RDC?
Vous savez, chez nous en Afrique, le patron, c'est toujours le patron. Sans doute que la première ministre de RDC a eu des contacts, mais c'est, à mon avis, si le président était venu, ça aurait pu avoir une autre tonalité, une autre signification. Et ça aurait même peut-être été l'occasion pour ceux qui s'activent autour du règlement de cette crise de tenter ce qui n'a pas été fait par la SADC et la CEAC, c'est-à-dire organiser une rencontre entre le président Kagame et le président Tshisekedi. Vous savez, avant même l'échec de la SADC et de la CEAC, la France aussi avait pensé qu'elle allait trouver l'occasion de réunir à Paris le président Kagame et le président Félix Tshisekedi. Ça ne s'est pas fait. Pour moi, l'absence et la présence n'ont pas la même signification. Évidemment, si le président était venu, peut-être que ça n'aurait pas été la fin de la crise, mais ça aurait pu faire avancer l'agenda de la résolution de la crise.
Merci, Élisée Odia. Vous êtes journaliste indépendante. La présence du chef de l'État congolais au 38e sommet de l'Union africaine ne peut pas se justifier par le fait que l'Union africaine a été, n'est-ce pas, pendant longtemps critiquée dans certaines de ses positions jugées trop favorables à Kigali?
Entre autres, mais déjà, on ne connaissait pas, personnellement, je ne connaissais pas l'agenda du chef de l'État. Peut-être qu'il avait mieux à faire. Mais on essaie de se rappeler, il y a eu un sommet, mini-sommet, qui a été organisé à Luanda. Le président Tshisekedi s'y était rendu et le président Kagame était aux abonnés absents. Et ça créait une frustration, c'était révoltant, aussi bien pour le président Tshisekedi, mais également pour les Congolais. On ne peut pas se convenir et ensuite zapper un rendez-vous comme ça. Donc il y a des précédents. Ensuite, un autre précédent, c'est SADC, le sommet SADC et AC. Et là, vous avez vu, le président Tshisekedi qui a d'abord donné son accord d'aller être là. Et ensuite, se retraiter pour ensuite assister aux conférences. Et enfin, il y a eu cette séquence à l'Union africaine. Je pense que dans un premier temps, c'était une façon pour le président Tshisekedi, au-delà de son agenda, comme je l'ai dit, que j'ignorais ou que j'ignore, de manifester effectivement son mécontentement par rapport à ce silence coupable, un peu complice de l'Union africaine, qui est resté à fond par rapport à toute cette situation qui se déroule en RDC, mais qui peut embraser toute la sous-région. Donc il y a eu ce désintérêt total de l'Union africaine, et je pense qu'à mon avis, c'était une façon pour lui de marquer une forme de désapprobation. Mais au-delà de ça, est-ce que, comme vient de le dire mon prédécesseur,
Sédi Kaba,
est-ce que Sédi Kaba, l'analyste Sédi Kaba, est-ce que on ne fait pas que prolonger la crise? Qui sait, peut-être que son arrivée et sa venue à Addis Abeba allait faire avancer les choses, parce que faut pas qu'on se leurre. Et tous les pays le disent, que ce soit au Conseil de sécurité des Nations Unies, que ce soit au niveau de la sous-région, il n'y aura pas une résolution militaire de ce conflit. Il y aura une résolution politique de ce conflit. Et autre chose que je voulais ajouter, au-delà de ce mécontentement que le président de la République voulait manifester, mais il y a aussi une pression interne. Peut-être que les autres, ils sont pas à Kinshasa, ils sont pas au pays, mais l'opinion publique congolaise ne veut pas de cette rencontre, surtout après l'absence, le rendez-vous manqué de Luanda. Mais le président, c'est le chef de l'État. Je crois que nos autorités ne doivent pas subir l'opinion. Ils doivent, eux, en tant que leaders, poser des actes pour le bien, justement, de la population, pour le bien du pays, pour le bien de la sous-région, et ainsi pousser cette opinion-là à les rallier. Mais si on agit, parce qu'on sait qu'en interne, l'opinion publique risque de mal réagir, peut-être d'une sorte de face-à-face, Tshisekedi Kagame, face-à-face, on ne risque pas d'avancer. Donc, à un moment, je me dis, c'est peut-être pour ces deux raisons-là, il aurait participé à cette... Et surtout, je reviens encore, une fois, le président Tshisekedi a dit, dans l'une de ses interviews, le président de la République disait qu'il voulait voir son homologue Kagame pour qu'il puisse lui poser une série de questions. Donc, ça allait aussi être une occasion d'avoir ces échanges-là, qu'on puisse enfin aussi comprendre... Qu'est-ce que le Rwanda de Kagame, et encore, on fait cette distinction entre le peuple rwandais et le régime du président Kagame, qu'est-ce que ce régime veut de la RDC, parce que c'est un régime qui est en train de tuer les Congolais, alors qu'on a, nous, il n'y a pas un régime congolais qui vient au Rwanda pour essayer de tuer le Rwandais. Donc, ça allait aussi être une bonne occasion de voir ces échanges-là, entre deux protagonistes, mais qui en soi détiennent également la solution à ce problème que nous sommes en train de vivre dans la sous-région. Pour terminer, je dirais, tout à l'heure, récemment, on parle du dialogue Russie-Ukraine. Vous vous rappelez, beaucoup de gens comparaient de la situation en RDC avec ce qui se passe entre la Russie et en Ukraine. Et aujourd'hui, on va vers des négociations directes entre Poutine et Zelensky. Donc, à un moment ou à un autre, il faudrait peut-être que les uns et les autres puissent mettre leurs égos de côté, regarder la priorité, regarder ce qui est essentiel, ce qui est important, et ce qui est important, à mon avis, c'est l'intégrité et l'intégralité, la sacralité des frontières de la République démocratique du Congo, et ce qui est important, c'est d'ailleurs le droit à la République démocratique du Congo, à la population congolaise, de vivre en paix dans son espace géographique.
Merci.
Et de bénéficier de ses ressources.
Merci, merci. Bienvenue au Ketch. Vous êtes secrétaire exécutif de l'ONG Justice Plus, membre de la thématique droits humains au sein de la coordination provinciale de la société civile de l'Ituri. Lors de ce 38e sommet de l'Union africaine, on a constaté que les chefs, les dirigeants africains, n'est-ce pas les chefs d'État, s'ils ont appelé à la fin des combats, n'ont pas mentionné nommément le Rwanda dans leur déclaration, dans leur discours. Et pourquoi, à votre avis, c'est plutôt le discours du Rwanda qui semble porter et pas celui de la RDC, alors que c'est plutôt la RDC qui est agressée?
Oui, merci Guy Maté. Nous avons lu, nous tous, les déclarations après ce sommet. Vous savez pourquoi? Parce que nous nous faisons représenter au lieu d'être là. Bien que ce genre de sommet, ça réunit, on dit bien, les chefs d'État et de gouvernement. Ça signifie, nous, on n'était pas absents, nous étions là. Notre patronne du gouvernement était là. Mais si je m'en tiens aux arguments de Cédric Abba et de Élisée Odia, quelque part, nous avons péché par ce qu'on dit, le poids de la représentation. Nous sommes dans une dynamique où toute l'opinion est en train d'attendre quand est-ce que ces deux chefs d'État vont se rencontrer. Le rendez-vous manqué de Luanda ne doit pas mettre notre président dans une posture de dire, voilà, comme il m'a boudé à Luanda, je vais aussi le bouder ailleurs. Non, c'est nous qui avons besoin vraiment de la paix dans notre pays. Et le président a peut-être élevé notre agenda, que nous tous nous ignorons aussi, mais il devait vraiment être présent. Le sommet d'abord est assez sadek de Dar es Salaam. Là, tout le monde attendait le président de la République. Nous l'attendions là-bas. Il envoie la chef de gouvernement, ce qui n'est pas mal, mais vous avez vu quand le président Kagame est entré dans la salle, comment l'ambiance était. Si le président Tshisekedi était dans cette salle et que Kagame est entré, est-ce qu'ils allaient se donner les poignées de main comme le président Kagame a salué Madame Judith Suminwa? Tout le monde attend ce genre de rendez-vous où notre président va enfin faire face à son homologue qui est en train de le fouiller. Et lorsque son homologue confirme la participation, sa présence à une des grandes rencontres au niveau du continent, nous ne devons pas maintenant briller par l'absence. Quelque part, ça peut nourrir des suspicions inutiles. Pourquoi l'autre est là, mais lui, pendant qu'il est attendu là-bas pour aller maintenant affronter en face l'agresseur, lui maintenant il se retire. Quelque part, ça peut aussi nourrir des suspicions. Mais nous ne pouvons pas dire que nous n'étions pas là. Madame la chef de gouvernement, elle était là et elle a défendu courageusement la position de la RDC, ce qui est bien. Mais sur le plan poids de représentation, le président de la République, sa présence est toujours différente avec les chefs de gouvernement. Et s'il était là, peut-être que les déclarations après le sommet allaient basculer en faveur de la RDC. Jusque-là, nous sommes en train de suivre des déclarations évasives. On appelle au retrait des troupes, mais on ne condamne pas les Rwandais ouvertement. Pourquoi on va condamner alors que le président Kagame est là dans la session? C'est ça le problème. Donc nous sommes en train de pécher par la politique de la chaise vide du président de la République qui est en train de nous mettre à une posture de faiblesse parce que là où les décisions se prennent pour faire intervenir la communauté internationale au niveau régional, nous ne sommes pas là. Mais Kagame est là. Vous pensez que le président Moussa est venu, le président Ruto, ils vont parler mal de Kagame à sa présence? Je ne pense pas. Donc c'est pour dire que son absence à ces réunions importantes, le sommet EAC-SADC et le 38e sommet de l'Union africaine, ne nous a pas permis d'avancer. C'est pourquoi nous avons vu vraiment des déclarations qui ne sont que des intentions. Merci. Mais il n'y a pas vraiment, vous sentez, un engagement des autres États. Parce que peut-être ils ont compris que nous aussi nous avons pris à la légère ces réunions, le fait pour notre président d'y ne voir pas participer. Et je pense qu'à des prochaines rencontres, vraiment le président doit être physiquement présent là-bas pour affronter son homologue. Nous tous, nous sommes en train d'attendre ce face-à-face-là entre lui et son homologue rwandais. Et nous espérons que c'est pour bientôt.
Merci, chers auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Le 13 février 2014, Jean-Baptiste Emenea Mubiala, plus connu sous le nom de King Kester Emenea, mourait à Paris en France à l'âge de 58 ans. Et pour lui rendre hommage, on va écouter Blessure, Blessure, cette chanson que Papa Wemba avait chantée pour pleurer le King Kester Emenea. On écoute donc Blessure avec Papa Wemba et on revient juste après.
Eliwa. omema kaka kokei metala makambotiki na sima confusion totale douleur na motema na préféré na lela ya kobatama na kibaloba balarme ya krokodile moto aza mordu na sango ya liwa azali hémorragie ya esengo atikali kaka na mawau pisoli oyo eleki nzela ya matama etiola te oyo etangi na motema bisi soki to bapesher ebeti ye ezali te maide etrahirie tanda ebale o bakama yebi mboke kasi pasi na yo ebise motema na ye moko s'il vous plaît bobongisa moto balingaka babetelaka ngo tolo te motema nanga eza te lokola zapa o banyama bazakila sala batanga te na bilongi na bino moswala epangwisima ya miso bongo na motema na nga Oya de coco solé caï, oya corandre la visite oh, on gagne la bouillie, papa y a pas généraux, y a volo caï. Maman yonda lo bakananga, chongo keba mokile zali mabe. Oui, je les confirme, les mots des méchants. Source et bibita babo la boue. Asi piako na beto ya bilobela. Babo di liki ba neglige soso. Ba koumi simbu ma ba fiki zete. Maman boboti, mama tanga mwana. Abibisi e mo pa ya oro oro pasi pe bawa o mama ya baba bakosi li e noki po bayebi azali maloba ya kose defendre motema nanga eza te ya ebete abotika na lela jokeste ebeleai malili mpe solo ya mama po esego ekei konjeta bamolai La maternité à vivre, la karaki m'a coloté, la bimisa qui yo, pour mokili et mona. Peye bayo, lelo awo kei, mabosani kilo ya pasi na ngai, e salaria, na pesi noso na nzambe.
Nabakule, nalelie, jengaka, defse baba, etina de malokai, dita yako, peti aziza,
ula tulu,
apachino, teo mwana batete o, zulu eweke, kayo konta o, chafla kitaka o,
Matanga, et si la kamba ou pas à papaya, t'as la tenge ma panzani, kasse pas ma colonne à go, ah, te, mou pesa mata.
revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi, à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ces magazines, nous avons fait un commentaire au sujet des sanctions que les États-Unis viennent de prendre à l'endroit d'un ex-officier rwandais et d'un cadre de la rébellion du M23. Nous avons également analysé l'absence du président Félix Tshisekedi au 38e sommet de l'Union africaine. Participe à cette émission, Madame Élisée Odia, elle est journaliste indépendante. Bienvenue au Ketch, il est secrétaire exécutif de l'ONG Justice Plus, membre de la thématique droits humains au sein de la coordination provinciale de la société civile de l'Ituri. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, c'est Eddy Kaba, il est journaliste et universitaire. Il est président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel, Think Tank, basé à Paris. Il a publié récemment l'ouvrage intitulé « Le Sahel, notre Afghanistan ». Une nouvelle réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU s'est tenue mercredi 19 février à New York sur la crise qui prévaut dans l'Est de la RDC. Lors de son intervention à cette réunion, Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, a dénoncé les restrictions imposées à la mission onusienne par les rebelles du M23 à Goma. La situation s'est détériorée depuis la prise de la ville volcanique, chef-lieu du Nord Kivu par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, a rapporté Bintou Keïta. Elle a fait état des morts et de nombreux blessés enregistrés sur le terrain alors que d'autres personnes sont menacées de représailles. Madame Keïta a également accusé les rebelles du M23 d'empêcher la mission onusienne d'exécuter son mandat d'assistance à la population civile. Madame Élisée Odia, vous avez souhaité nous parler de ce sujet en vous posant la question de savoir si la MONUSCO devrait-elle poursuivre et parachever son retrait de la RDC. Et pourquoi cette question, Madame Élisée Odia?
Parce que moi, je me projette déjà à l'après. L'après, comment est-ce que le pays va gérer l'après et comment est-ce que la RDC doit gérer l'après cette situation que nous sommes en train de subir. En réfléchissant, je me disais, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à reprocher à la MONUSCO. La faute, je ne sais pas, la résolution, la faute à la mission qui lui est assignée, il y a beaucoup à dire, mais je me dis aussi, quand vous regardez le timing de ces attaques, du moins de l'exacerbation ou de l'offensive, de la montée de cette offensive, ça intervient au moment où la MONUSCO commençait déjà à se retirer, à plier bagages. Et ça nous a mis aussi en difficulté. Je pense que si la MONUSCO était là, avec tous ses moyens ou tous les moyens dont elle disposait, on n'aurait peut-être pas vécu cette situation qu'on a vécue, par exemple, à Goma. Et aujourd'hui, on s'en veut un peu parce que il y a eu cette demande de procéder au retrait de la MONUSCO. Et donc, je me dis, l'après, comment est-ce que le pays va devoir gérer cet après-là? Comment faire, parce que vous savez, il y a plusieurs parties dans ce conflit, et donc ce sont des gens qui ne se font pas confiance. Et aujourd'hui, à mon humble avis, la MONUSCO peut être ce gage de confiance mutuelle entre les différents protagonistes dans ce conflit. On parle, on voit la MONUSCO, peut-être certains l'ignorent, moi ces derniers temps j'ai eu à suivre quand même le déploiement de la représentante du secrétaire général des Nations Unies ici, et j'ai retenu une phrase de Mme Bintou Keïta. Elle dit, il faut que la vérité soit dite. Peu importe cette vérité, elle doit être dite. Il y en a marre de demi-vérité. Il y en a marre des vérités cousues de fil blanc. On a besoin de la vérité, toute la vérité, sur ce qui se passe à Goma, sur ce qui se passe dans la partie est du pays, sur le pourquoi de la continuité de cette guerre qui apparemment n'est plus sans fin. C'est une guerre sans fin. Donc on a besoin de tout cela, et moi je me dis que la MONUSCO, peut-être pas sous cette forme. Vous savez, on a connu la MONUC. Après, on a connu la MONUSCO. peut-être qu'on peut connaître encore une autre mission qui prendra peut-être une autre forme, mais aujourd'hui, la République démocratique du Congo ne peut pas se passer d'une mission onusienne sur ses terres. Ça, c'est vraiment mon avis. Et encore que, c'est vrai que la SADC a montré ses limites, l'EAC a montré ses limites, il y a une méfiance et une défiance contre toutes ces structures. Et aujourd'hui, la seule structure, à mon humble avis, sur le plan international, capable de fédérer tout le monde, capable d'être ce gage-là, de confiance, c'est une mission qui sera faite sur base d'une nouvelle résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Certes, il se posera un problème de financement, surtout quand on voit que les États-Unis est en train de bloquer un peu ça et là, alors qu'il était le grand contributeur. Mais je crois qu'il y a toujours moyen de travailler avec l'administration Trump, qui là, au regard des sanctions qui vient d'imposer, par exemple au Rwanda, est en train de montrer sa bonne foi, sa volonté de jouer un rôle majeur dans la fin du conflit en République démocratique du Congo et dans la région de Grand Lac. Mais il y a également d'autres partenaires qui peuvent mettre la main à la pâte. Et ça, en disant cela, je ne suis pas en train de dire que nous ne sommes pas capables, mais à un moment, il faut qu'on se regarde en face, accepter que, qu'il y a eu des limites et qui se sont fait, qui sont remarquables, qu'on n'est pas encore à mesure de faire face nous-mêmes à la sécurisation de nos frontières, à la protection de nos populations, et il n'y a pas de honte à encore demander de l'aide.
Merci. Bienvenue, Ketch. Vous êtes en Ituri, où la MONUSCO est active. Qu'est-ce que vous avez à dire au sujet de cette question que Élisée Odia vient d'exposer au sujet de la MONUSCO?
En tout cas, si je parle dans le contexte ituriens, la MONUSCO doit encore rester. C'est vrai, les plans de la transition, les plans du désengagement de la MONUSCO est déjà activé. Et on a vu qu'ils sont désengagés dans l'espace Kasaï, au Tanganyika, au Sud Kivu. Mais, cher Guy Maté, le contexte ituriens est différent. C'est différent dans le sens où les conflits qui sévissent actuellement en Ituri, l'unique acteur qui fait encore l'unanimité en termes de confiance, c'est la MONUSCO. Et les victimes, chaque fois de ces agressions, n'ont de lieu sûr que dans les bases de la MONUSCO et lorsqu'ils voient la MONUSCO. Les différents protagonistes qui sont en Ituri, ici, que ce soit les groupes armés ou autres forces négatives, chaque fois ils ont, je peux dire, cette hésitation de s'affronter lorsqu'ils savent que la MONUSCO est là. Donc, le rôle que joue la MONUSCO dans la gestion de cette crise est très capital. Et les protagonistes ont vraiment peur de s'affronter ouvertement parce qu'ils savent que les forces onusiennes sont là. Alors, parler du retrait de la MONUSCO dans le contexte ituriens actuellement, c'est pas vraiment opportun. Le besoin est encore énorme, très grand. Et je pense que les plans là doivent être activés peut-être ailleurs, mais dans le contexte que nous connaissons actuellement, Nord Kivu et l'Ituri, vraiment, les forces onusiennes, s'il faut que je les aborde au niveau des contingents, les rôles qu'ils sont en train de jouer, ça rassure les populations. Alors, sur le plan politique, les débats peuvent évoluer, chacun peut interpréter à sa manière, donner son opinion, mais nous qui vivons les réalités sur terre, par rapport à l'espoir, à la confiance qu'inspire la présence des casques bleus, la présence de la MONUSCO, vraiment, nous ne pouvons pas dire que c'est le moment de se désengager. On doit d'abord reculer ces plans pour l'Ituri et aussi, je dirais, peut-être pour Nord Kivu, parce que le format de conflit que nous connaissons en Ituri, c'est différent de ce que nous sommes en train de voir dans le Nord Kivu. Le format de conflit en Ituri, c'est beaucoup plus entre les groupes armés. Et ce sont des protagonistes permanents qui sont là. Et chaque fois qu'ils voient qu'il y a une force neutre qui est intercalée entre eux, ils hésitent un peu de s'affronter. Alors, comme ce sont des groupes armés qui ont des ramifications communautaires, maintenant il faut accélérer les travaux, il faut accélérer les processus de démobilisation, notamment de désarmement, de mobilisation avec PDDRS, pour que ces groupes armés déposent leurs armes. Et lorsqu'on verra les groupes armés embrasser en totalité les processus, là maintenant la MONUSCO peut se désengager. Mais tant que les groupes armés ont les armes à la main, la présence de la MONUSCO est encore rassurante pour l'instant. C'est ainsi qu'à la question de Mme Odia, j'ai fait dire que non, pour l'Ituri, ce n'est pas encore le moment pour la MONUSCO de se désengager. Il y a encore beaucoup à faire. il y a beaucoup à travailler sur le plan stabilisation, travail avec les communautés, travail avec les groupes armés. Et lorsque nous verrons que cela évolue bien avec les PDDRCS, là maintenant on peut accélérer les plans de désengagement de la MONUSCO pour la province de l'Ituri et peut-être du Nord Kivu. Voilà ce que je peux donner comme élément de réponse à la question de Madame Élisée Odia. Merci Guy Maté.
Merci Sédi Kaba. De Paris, d'où vous, vous intervenez, quel regard vous avez de cette question?
Non, la question de la présence de la MONUSCO dans le contexte actuel est une question importante. Et l'hypothèse de retenue de la MONUSCO avait été envisagée et avait commencé dans un contexte qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Et à mon avis, il faut voir, comme il a été dit par notre co-débatteur qui est sur place, quel vide laisserait le départ de la MONUSCO. Donc il faut tenir compte de cette réalité, que l'on maintienne la présence de la MONUSCO et qu'on envisage de voir, puisque en réalité, la question de la MONUSCO est aussi une question de mandat. Il faut donner un mandat plus robuste à la MONUSCO pour qu'elle puisse faire sa mission de protection des citoyens, parce que des citoyens congolais. On a vu le M23 passer sous le regard de la MONUSCO pour perpétrer des crimes contre l'humanité, puisque c'est de cela qu'il s'agit, dans les territoires qu'il occupe. Donc, il faut maintenir la présence de la MONUSCO, mais réfléchir à lui donner une meilleure efficacité pour que sa présence aide à protéger les populations. On ne lui demande pas de devenir un belligérant ou un co-belligérant, mais il faut quand même qu'elle puisse au mieux protéger les populations civiles et permettre que le M23 ne fasse pas un certain nombre d'exactions sur les civils et sur les populations les plus vulnérables.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Malaika, chanson interprétée par Bonnie M. On se retrouve juste après.
Malaika, nakupende Malaika. Malaika, nakupende Malaika. Nami nifanyeye, itwa na mwenzio. Nashindwa la mali tena we, ningekuoa Malaika. Nashindwa la mali tena we, ningekuoa Malaika. Malaika, nakupende Malaika. Malaika, nakupende Malaika.
Bonnie M, un groupe musical qui a fait parler de lui pendant la décennie 70 et 80. Je rappelle que nous avons dans cette émission Madame Élisée Odia, journaliste indépendante. Bienvenue au Ketch. Il est secrétaire exécutif de l'ONG Justice Plus, membre de la thématique des droits humains au sein de la coordination provinciale de la société civile de l'Ituri, et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Seydi Kaba, il est journaliste et universitaire. Il est président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel, Think Tank, basé à Paris. Il a publié récemment l'ouvrage intitulé « Le Sahel, notre Afghanistan ». Le chef d'état-major de la force terrestre des forces armées de la RDC et FARDC, le général Christian Daïwel Okoura, en séjour à Bunia, en Ituri, va échanger avec une délégation des hauts officiers de l'armée ougandaise UPDF. Selon des sources militaires, ces officiers passeront en revue les opérations militaires conjointes annoncées par les deux armées contre les groupes armés qui sèment la terreur en Ituri. Depuis le début de cette semaine, des troupes de l'armée ougandaise sont arrivées dans la ville de Bunia pour soutenir l'armée congolaise dans la lutte contre les groupes armés locaux qui se distinguent par des attaques répétées et commettent des exactions contre les civils. Cette présence militaire ougandaise suscite des inquiétudes parmi la population locale, notamment après des rumeurs concernant une possible attaque sur Bunia. Toutefois, le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée congolaise en Ituri, a assuré en début de semaine que la présence des militaires ougandais s'inscrivait dans le cadre d'opérations conjointes pour maintenir la sécurité dans la région. Bienvenue au Ketch, vous avez choisi de nous parler de l'entrée des troupes ougandaises dans la ville de Bunia, situation qui, selon vous, a créé, n'est-ce pas, la psychose au sein de la population de l'Ituri en général et de Bunia en particulier. On vous écoute.
Ok, mais merci Guy Maté. Ça, c'est vraiment une actualité qui fait la une au niveau de l'Ituri. Vous savez, depuis le mardi 18 février, le premier convoi des troupes UPDF, l'armée ougandaise, a fait son entrée dans la ville de Bunia. Et ils sont basés à Wampara. C'est un centre de formation militaire, centre militaire qui est situé aussi de la ville de Bunia. Et c'est dans le territoire du Rumu, donc c'est à quelques, moins, je crois, moins de 15 kilomètres de la ville de Bunia. Alors, pourquoi nous avons choisi parler de ces sujets, Guy Maté? Tout est parti des deux tweets sur le compte X de M. Kainerugaba, le chef d'état-major général de UPDF, qui a fait les tweets vraiment qui ont semé la psychose au sein de la population de l'Ituri et de Bunia en particulier. Les premiers tweets, ce général, il dit voilà, il y a son sang qui est en train de couler à l'est de la RDC, son peuple est attaqué, il vient à Bunia pour libérer son peuple. Ben, on s'est dit, à Bunia, il n'y a pas de peuple ougandophone. Les communautés, quelle communauté ougandophone est attaquée? Il n'y en a pas en Ituri. Et dans le deuxième tweet, ce qui a suscité un peu des inquiétudes, il dit voilà, toutes les forces armées. Il a même assimilé les FARDC, les forces royalistes, qu'il va trouver sur place à Bunia. Il a dit que son entrée est imminente et toutes les forces qu'il va trouver là-bas doivent déposer les armes. S'il trouve des forces qui gardent encore les armes, elles seront assimilées aux ennemis et seront frappées sans distinction. Voilà les deux tweets qui ont vraiment semé la panique, qui ont semé la psychose. Depuis lundi, les écoles ont d'abord ouvert timidement, les écoles ont ensuite fermé, et la ville de Bunia a été vraiment une ville fantôme. Et tout cela avait été nourri à travers des événements précédents. Vous voyez, nous sommes dans un contexte très sensible avec l'entrée d'un 23 dans la ville de Goma, la prise de Bukavu et la reprise des combats dans le Grand Nord. On revenait au début du mois d'assister encore à un grand carnage dans les sites des déplacés de Djaïba par les miliciens de Codeco. Alors, toute la ville de Bunia était vraiment dans la psychose. Maintenant, cela a été exacerbé par les deux tweets général, les chefs MG de UPDF, et la ville de Bunia a été plongée effectivement dans la psychose. Les écoles n'ont pas bien fonctionné, l'économie a tourné au ralenti, tout le monde était aux aguets. Toute la population s'est huée vraiment déversée au marché pour faire des provisions parce que chacun devait se préparer s'il y avait attaque, s'il y avait guerre dans la ville de Bunia, comment faire face à cette éventualité en se terrant dans sa maison et pour ne pas connaître la situation que nos compatriotes de Goma ont connue pendant l'entrée de 1-23. Heureusement qu'il y a l'armée qui a communiqué après une première réunion après l'entrée de UPDF. Les porte-parole du gouvernement provincial, il a communiqué pour rassurer la population, pour dire voilà, l'entrée de UPDF, ce n'est pas dans le cadre des suites qu'on a lues sur les réseaux sociaux, mais c'était plutôt dans le cadre de la suite des opérations conjointes au Shujia.
Justement, bienvenue. Justement, est-ce que ce message du porte-parole de FARDC à Ituri a pu calmer la situation, a pu apaiser la tension?
Effectivement, ça a apaisé la tension. Il n'y a pas que l'armée qui a communiqué, il y a même la société civile qui a parlé aussi. Mais il fallait qu'il parle un peu avant, parce que déjà la peur avait gagné presque toute sa population. Alors, ils ont fait vraiment des bonnes communications qui ont apaisé quand même la population. Et déjà, à partir même de ce mercredi, j'ai dit, il y a des écoles qui ont commencé à ouvrir, bien que les parents étaient encore réticents pour envoyer les enfants à l'école. Alors, de l'autre côté, un autre événement qui avait encore renforcé cette psychose, c'était les rumeurs, la désinformation sur la construction des tentes par la MONUSCO. Il y a encore, on ne sait pas par quelle source, les gens ont encore envenimé cette psychose à travers des publications selon lesquelles la MONUSCO aurait construit 800 tentes dans cette base logistique située à côté de l'aéroport pour abriter les opérations de désarmement des FARDC. Les gens disent encore, mais finalement. Donc, si les tweets des générales ougandais sont vrais et que la MONUSCO prépare déjà même les tentes pour ces opérations, c'est que c'est vrai, sans encore renforcer la psychose. Heureusement, les porte-parole de la MONUSCO à Ituri, le chargé des communications du bureau d'information publique, il s'est vraiment investi pour combattre cette désinformation ensemble avec les porte-parole de l'armée à Ituri. Ils ont vraiment rassuré la population. Et ce jeudi, ils ont même accueilli les structures des jeunes au sein de la base de logistique de la MONUSCO pour aller visiter la dizaine de tentes qui étaient érigées. Pour eux, c'était juste des tentes dans le cadre de prévention lorsqu'il y a des déplacements de mouvements de population pour leur personnel d'être basé là-bas. Ça n'avait rien à voir avec les opérations conjointes au Shujia entre UPDF et FARDC. Mais en conclusion, Dimanche, moi je voulais dire un aspect très important. Sachant que la communication est une arme très puissante et c'est un couteau à double tranchant, si la communication est mal utilisée, elle peut même faire perdre des vies. Si elle est bien utilisée, elle peut sauver des vies. Cette fuite-là du général ougandais, d'ailleurs, il y a certains analystes qui ont qualifié ça vraiment d'irresponsable. Connaissant le contexte actuel, connaissant la psychose qui règne au sein de la population de l'Est en général et de l'Ituri en particulier, faire des tweets qui est qualifié d'incendiaire de ces gens, ce n'était pas vraiment prudent de sa part. Et c'est ce qui a semé cette psychose. Heureusement, du côté congolais, les autorités ont vraiment réagi pour calmer, pour recadrer la situation, et ça a quand même rassuré la population. Aujourd'hui, on voit déjà l'économie tourner, les écoles ont quand même ouvert, et on espère que dans les jours à venir, la situation va redevenir normale, quand bien même les troupes ougandaises sont déjà dans la ville de Bounia. Tout cela parce que la population de l'Ituri garde encore des souvenirs du passé. Connaissant le passé sur la présence des UPDF sur les sols ituriens dans les années 2002-2003, avec leur fameux slogan là qu'ils disaient « Inchinienu, Lakini Odanietu », on les connaît. Et cela n'a pas encore quitté la mémoire collective au niveau de l'Ituri. Et connaissant aussi, on ne confirme pas, mais que l'Ouganda a toujours servi de base arrière pour le M23. On connaît que le M23 se réunit souvent à Kampala. Alors, comme ils n'ont jamais été officiellement ennemis, le M23 fréquente régulièrement Kampala, il y a des analyses qui donnent des doutes par rapport à leur présence ici. Est-ce qu'ils ne serviraient pas de base arrière pour l'occupation de l'Ituri par le M23? Donc tout ça, ce sont des inquiétudes qui se sont posées. Et les autorités congolaises, heureusement, qui au niveau du gouvernement provincial, à l'état de siège ici, il y a des communications qui rassurent, mais la population est toujours aux aguets, parce Merci. Que ça peut barder à tout moment, et c'est ce que je peux dire comme commentaire par rapport à ce sujet. Merci, Guimard.
Merci, Madame Élisée Odia. Justement, que répondez-vous à cette opinion qui a tendance à faire les liens entre la présence des militaires ougandais à Bounia et la guerre du M23-RDF?
Ben, elle a raison de faire le lien quand même, au regard du passé de l'UPDF sur les terres congolaises. Je ne sais pas à quoi joue l'office Museveni, mais il a tendance à chaque fois que ça lui prend d'essayer un peu de chauffer les esprits ici en République démocratique du Congo, Et moi, je dirais que les autorités congolaises ne doivent pas être naïves. Je ne sais pas si ce sont des ballons d'essai, c'est pour tester ou comment, mais il n'est pas son premier tweet, à sa première psychose de créer. Donc, on a rappelé ici le passé de l'armée ougandaise. On a rappelé également que, on doit rappeler également que le M23 est passé de côté au Ouganda pour reprendre les hostilités. Donc, dire que, et moi, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Peut-être qu'ils ont des informations que nous, on n'a pas. Mais beaucoup des Congolais, effectivement, n'arrivent pas à comprendre cette complicité que certains risquent d'appeler duplicité qu'il y a entre d'un côté le Congolais et l'Ouganda, alors qu'il y a également d'autres qui continuent de dire qu'il y a également l'Ouganda qui nous agresse. On ne veut pas se mettre à dos tous les pays de la sous-région. Et encore qu'on n'est pas une nation belliqueuse, on a nos problèmes à nous. On essaie de les arranger à notre façon. Pour exemple, écoutez, au niveau de la sous-région de Grand Lac, c'est quand même le seul pays qui, malgré son immensité, arrive à organiser des élections ouvertes presque à tout le monde. On peut effectivement parler sur les conditions, la manière, mais au moins nous, on arrive à organiser des élections. Mais regardez quand même quelques pays qui nous entourent. Ce ne sont pas des pays qu'on peut dire qui sont vraiment fans de la démocratie. Et peut-être que ça les arrange pas. Mais nous, on ne doit pas être naïfs. On doit être. On ne peut pas dire oui, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Et c'est quelqu'un qui le fait pour non. Et il faudrait qu'on reste sur nos gardes. Dire que certes, il y a le Rwanda d'un côté, mais il y a toujours eu des personnes qui ont toujours, ou des rapports aussi, qui ont toujours aussi pointé l'Ouganda. Donc, il ne faut pas qu'on soit surpris un jour. On se réveille un bon matin. On se retrouve qu'il y a également une autre partie du pays qui est occupée par une autre armée étrangère. Donc, comme le fils Museveni se calme, il y a des problèmes au Congo aussi. Personne ne l'a appelé en sauveur. C'est 460 ou 450 tribus en République démocratique du Congo. Et il y a tellement des fusions, on se marie entre nous, on fait des enfants, à tel point qu'on n'arrive même plus à dire que nos enfants appartiennent à quelle tribu. Mais les problèmes aux Congolais, comme je l'ai dit avant, qu'ils laissent les Congolais gérer leurs problèmes. Qu'ils laissent les Congolais essayer de se rassembler autour de leurs idéaux. Qu'ils laissent le Congolais essayer de se rassembler autour de leur pays, que laissent les Congolais gérer leurs problèmes et tout le monde se portera mieux.
Merci, c'est Eddy Kaba, on va finir cette émission avec vous. Il y a des observateurs qui redoutent que cette présence des militaires ougandais ne puisse déboucher sur les scénarios de 1998, quand le Rwanda et l'Ouganda, chacun détenait, n'est-ce pas, une zone d'influence en RDC. C'est Eddy Kaba, est-ce que vous êtes là? Voilà, apparemment il est parti, donc on finit cette émission ici. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Madame Élisée Odia, c'est Eddy Kaba et bienvenue au Ketch. Merci aussi à Debs Vita qui est à la technique avec la participation de Christian Lomombe, Didier Dadier, d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sebujangwe, à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 20h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Okosingan Fumu de King Kester Emenea, une façon pour nous, n'est-ce pas, de continuer à lui rendre hommage à l'occasion de la commémoration de la date de sa mort. On écoute donc Okosingan Fumu et on se retrouve le samedi prochain. Yeah.
Mon gamin,